Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, la plume est à vous. Le texte que vous allez entendre ce soir est un texte de Michel Labbé. Michel Labbé a vécu toute son enfance dans un petit port de la rade de Lorient, face à l'île de Groix, ce qui, comme vous le verrez dans le texte qu'elle nous a fait parvenir, a nourri le souvenir et l'écriture. Une carrière de professeur de lettres, une bibliographie impressionnante où figurent des nouvelles, des romans, des essais, de la poésie, sans oublier une thèse consacrée à l'Ecclésio. Michel Labbé est membre de l'Association des écrivains de Bretagne. Dans cette nouvelle intitulée « Fine, au bol de faïence », Fine, P-H-I-N-E, comme le prénom apocopé Joséphine, c'est à travers le regard d'une fillette que nous revisitons ce passé de l'immédiate après-guerre dans un Lorient dévasté, une sombre période encore troublée par les haines et le désir de vengeance, car il est des coups de foudre qui font des bleus au cœur. C'est aussi l'époque de la brillantine plaquée sur les cheveux, du sel Kruschen censé, selon la réclame, apporter jeunesse et bien-être éternel en un temps où le rationnement des années noires plombait encore le quotidien, et cela jusqu'à l'habillement. Mais, chut, écoutons la fillette au regard transparent qui observe et qui se souvient. Fine au bol de faïence. Tu sais, j'avais 6 ans. Personne ne se souciait de ma présence. Je me glissais d'une maison à l'autre, d'une pièce à l'autre. J'errais dans le quartier, j'observais, j'écoutais ce que disaient les adultes. C'était au retour de la guerre. Notre région lorientaise avait été évacuée en raison des bombardements et nous venions de la retrouver. Ce que je te raconte est exact à ceci près. Que les gens parlaient breton. Moi aussi à cette époque, mais j'ai oublié. Je vais donc raconter dans la langue de Molière et l'une des langues de Guilvic, ce monde disparu. Fine venait chaque matin, quand il ne pleuvait pas, avec son immense bol de faïence et sa cuillère, boire et manger sa chulatte, du pain beurré, trempé, dans du café au lait. Elle s'asseyait sur une pierre basse contre le pignon qui restait de la maison éventrée. Elle n'était pas seule. 3 ou 4 vieux pêcheurs se tenaient assis avec elle, face à la rade. Le soleil se levait et elle restait émerveillée, émerveillée par ces rouges, roses, oranges changeants, loin, au-dessus des hangars de l'arsenal, vers le Blavé. Personne ne lui avait dit que c'était beau, mais elle trouvait ainsi. Chaque matin, elle regardait, immobile, et se sentait remuée jusqu'au tréfonds de cette puissance de couleur, de cette puissance de changement du ciel, de cette puissance de répétition, puisque tous les matins, c'était le même éclaboussement vers l'est. Ah, certains, peut-être, l'auraient critiqué de venir ainsi prendre son déjeuner au dehors. Mais ça les regardait, peut-être ? C'était son plaisir de la journée. Chaque jour, elle se préparait à cette rencontre. Elle se levait, laissait Charles au lit. Hein, il avait du mal à se remettre de la coqueluche attrapée l'an passé. Elle disait ses prières, se débarbouillait dans la cuvette posée sur la table de toilette du palier. Puis elle s'habillait de son corset, de sa culotte brodée de dentelle aux genoux, de son jupon gris festonné, ficelait ses poches autour de sa taille, enfilait sa jupe fendue au niveau des poches, son caraco et son tablier. Elle peignait ses longs cheveux encore noirs en faisant deux mèches enroulées autour de cordonnées, les rassemblait sur le haut du crâne par des épingles gondolées, tâchant de former deux légères coques sur le devant. Elle y posait le béguin aux deux ailes carrées, blanches, raides d'amidon, qu'elle fixait par trois épingles à tête blanche. Elle mettait ses bas, ses chaussons de basane, ses sabots et, à marée haute, descendait vider le seau de la nuit à la côte, prenant avec elle la bouteille de Javel pour bien rincer. Elle remontait, elle prenait son sel crochen dans un peu d'eau, tandis qu'elle passait le café dans la grecque, comme on disait pour la cafetière, et préparait sa bolée. Il restait, de la guerre, deux bols ébréchés. Elle avait laissé le blanc et bleu à Charles et pris le beige avec une rose rouge foncée. Puis, refaisant une partie du trajet à travers la Venelle, elle se dirigeait vers le Pignon pour contempler. Ils étaient tous assis sur ces pierres écroulées, disposées contre le mur de la maison, afin de servir de siège. Fine, les genoux au niveau de la poitrine, les jambes couvertes du noir des tissus, trempait de temps en temps sa cuillère dans le mélange, puis reposait la tiédeur du bol dans le creux de ses jupes. Devant eux, à trois enjambées, s'étendait le champ de patates en dénivelé de plus d'un mètre et le chemin étroit qui descendait vers la côte où une brouette ne pouvait passer sans accrocher les orties, les fougères et ces subtiles pervenches bleu pâle du printemps, où s'égayaient de multiples et multicolores papillons devenant fleurs, le temps de se poser. Sur la vase, à quelques 200 mètres de là et 3 ou 4 mètres plus bas, abandonné pendant toutes ces années d'évacuation en rase campagne, on voyait des canots couchés. Avant de reprendre la mer, leurs coques écaillées réclamaient grattage, ponçage, couche neuve de peinture, coltard pour le fond de cale et enfin calfatage méticuleux. Les hommes, qui étaient assis avec elle en bleu de chauffe et casquette de drap, évoquaient l'état de leur embarcation et le travail qu'il leur restait à faire. Ce qui demeurait un chalutier était caché à droite par la haie d'un champ, et c'était aussi bien. Il avait sauté sur une mine de la rade et avait pris, échoué à la côte avec ses membrures à l'air, une allure de squelette renversée sur le dos. Elle ne voulait voir que ce dont ils avaient été privés 4 ans durant, la mer, le ciel, et ce flux-reflux des marées qui métamorphosait le paysage dans la journée, noir de la vase, puis bleu ou gris de l'eau. Ce lent battement plomb-miroir, plomb-miroir. « Le soleil, maintenant, éblouissait tellement qu'on ne pouvait le regarder qu'en tant que reflet sur la marée montante ou éclat là-bas, sur la verrière des hangars. Imperceptiblement, il grimpa. À présent, il était déjà haut, au-dessus de l'arsenal, et de l'aurore restaient seulement quelques effilochures bigarrées, jaunes et vert pâles, dans un bleu qui commençait à naître. C'était encore stupéfiant de beauté, de pouvoir, vous pénétrant, vous faisant vibrer. L'île, devant, était verte, de verdure folle, avec deux maisons blanches qui n'avaient plus que leurs murs du fond, interdites car encore minées. À sa gauche, les pans massifs de la base sous-marine. Elle se demandait d'où venait la guerre, de la furie vengeresse du ciel ou de quelque diable qu'aucun saint ne parvenait à vaincre. Deux petites filles sortirent du jardin à droite pour aller à l'école, prêtes à remonter le chemin vers les lavoirs. On leur avait fait des nattes relevées sur le crâne par des barrettes, et leur tablier à manches longues était taillé dans un tissu à petits carreaux avec une bande de carreaux différents dans le bas pour rallonger. Elles portaient dans leur soc des chaussettes tricotées par Radegonde dans le coton d'anciens dessus de lit. Leurs cartables étaient tellement écorchés qu'on ne savait plus s'il s'agissait de carton bouilli ou de cuir. Elles vinrent toutes deux l'embrasser. « Bonjour, tante fine. Bonjour, Bugalekar. » C'était plutôt Bujalekar, le terme désignant les enfants, ayant sa prononciation locale. Les petites filles de son amie Radegonde l'appelaient « tante » par pure affection. Et à ces moments-là, elle était contente de la vie. De la Venelle sortit la factrice et son vélo, habillée de marine, les cheveux frisés et ébouriffés comme s'il n'avait pas vu de peigne depuis des mois. À son tour vint la secrétaire de mairie. Ah, dame, celle-là était coquette. Toujours bien mise, la même jupe, le même chandail, bien sûr, mais lavés et repassés, impec. Et bien coiffée, avec des coques compliquées dans ses cheveux lustrés. Oh, sûrement elle se mettait de la brillantine. Apparue sur la côte, le long du jeu de boules, à gauche du paysage, une silhouette noire et blanche, dont on n'aurait pas pu deviner l'âge si elle n'avait eu cette coiffe et ces jupes longues noires, maintenant réservées à leur génération, dont on aurait pu deviner l'identité si elle n'avait eu cette démarche particulière qui consistait à tourner la jambe droite pour dissimuler le problème de hanche qu'elle avait depuis l'enfance. Joseph, tout près, bougonna.
« C'est Mélanie. Eve a probablement darbaudé. »
Mélanie était une darbaudeuse, une marieuse, quoi. Elle allait d'une famille à l'autre, parfois très loin, pour arranger les noces de ceux qui le lui demandaient. Elle montait à présent le poing sur sa hanche malade. Elle s'arrêtait sur le chemin pour examiner si, dans ce fouillis végétal, n'aurait pas existé quelques plantes pour guérir les furoncles, les anthrax qu'elle trouvait au cours de ses visites. Un autre des hommes contre le pignon, Julien, dit « Ah, elle s'occupe de la fille Tapien, ah, qui voudrait bien trouver un homme. »«
Dame, 25 ans, grommela Joseph, elle n'est plus mariable. »« Bah, dit Fine, Qui veux-tu qu'elle ait trouvé pendant la guerre, hein? Les gars envoyés par l'occupant au travail obligatoire. Pourtant, elle est jolie, Aline. Personne ne peut dire le contraire.
Ouais, mais 25 ans, elle n'est pas mariable, grommela à nouveau Joseph. Pas sans Darbaud, en tout cas.
Les autres donnèrent aussi leur avis.
Il y a le fils Falaire qui se retrouve sans femme avec deux petits gosses.
Ouais, mais il n'est pas divorcé.
C'est ton neveu, hein, Finn?
Oui, oui. Et je me suis occupé de lui quand ma sœur était malade.
Ah, moi qui n'ai pas eu d'enfant. C'est mon petit chéri, Marcel. Mesdames, sa vie ne me regarde pas.
Faut savoir se retirer.
Moi, j'ai confiance. Mélanie connaît aussi les lois. Elle sait ce qu'elle fait. Si elle a envisagé le mariage, c'est que le divorce avec l'autre est sur la bonne voie.
Hein? Son ancienne bonne femme à Marcel, une saloperie, tiens, une saloperie. Abandonner le domicile et les gosses. Ah, quand il est rentré de la pêche, il était estomaqué, la maison était vide. C'était au début de l'occupation.
Ah, les petits auraient été seuls et n'auraient rien mangé pendant 2 jours si ma cousine ne les avait pas récupérés. Partir avec un Joseph s'étrangla et la conversation se poursuivit entre Julien et un troisième, Raphaël.
Ouais, celle-là, eh ben elle aurait mérité d'être tondue.
Si elle revenait, elle ne reviendra pas.
Mais si elle revenait, on lui ferait la peau avant qu'elle passe l'octroi.
Oh ben sûr, moi-même, malgré mon âge, je m'en chargerai.
Et tu penses que c'est avec Marcel Falaire que Mélanie voudrait marier Aline?
Oh, c'est ce qu'on dit.
Aline hésite. Et il y a les petits gosses de Marcel et elle a quand même peur que la femme revienne.
Bah, et puis l'homme ne lui dit peut-être rien.
Si, ils se plaisent, paraît-il.
Mélanie montait toujours, tordant la jambe, par le chemin d'Ortie et de Pervenche. Finn aurait tellement aimé qu'Aline veuille bien de son neveu qui avait si lourd à porter. Elle commença à réciter sa prière préférée.
Santes Anna Agalon.
Elle avait une grande image de Sainte Anne dans la chambre et une petite statuette bleue et rose avec la sainte couronnée mettant la main sur la tête de sa fille Marie. Avec l'une de ses belles coiffes comme des ailes supplémentaires posées sur le béguin, elle, fine, suivait la messe tous les dimanches. Et tous les ans, avant la guerre, elle était allée au pardon de Sainte Anne Dorée avec Charles. Sainte Anne, c'était l'océan et le ciel, la vase et la verdure, sa mère, sa payse bien-aimée, avec un pouvoir que personne d'autre n'avait. Il faudrait que Sainte Anne permette ce mariage-là. Quand elle eut fini la prière, elle la recommença.
Sainte Anna Agalon.
Mélanie surgit des orties, des fougères et des pervenches, tenant ses jupes d'un côté, sa hanche de l'autre, les ailes de la coiffe frissonnant sous la brise.
« Venez toujours, Mélanie. Vous allez à présent darbauder.
Oui, mais je vous dirai pas pour qui.
Oh, on vous a vu entrer chez Falaire, dit Joseph.
Oh, cette histoire-là est conclue depuis hier. »
À vous, Finn, je peux bien le dire. Votre neveu, eh ben, il est casé.
Aline s'arrange bien avec les petits. On a retrouvé leur mère en Allemagne et elle a eu qu'à signer pour le divorce.
Oh, elle avait pas le choix.
Voilà donc votre neveu libre d'épouser Aline et lui, eh ben, ils ont du goût l'un pour l'autre apparemment.
Ah, merci à vous, Mélanie. Me voilà à présent
tranquille.
Fine,
malgré sa reconnaissance, craignait d'éprouver une trop grande sympathie pour Mélanie. Elle avait le pouvoir de marier et soigner. Et qui sait si elle était du côté du diable ou des saints? Qui sait si c'est Sainte-Anne qui lui permettait ses pratiques, ses manigances, pour ainsi dire. Tandis que Mélanie passait son chemin, Fine s'imprégna de l'entour, du ciel, et du reste de vases luisantes, et du chenal où montait la marée, bref, de la souveraineté des choses. Elle goba les dernières gouttes de café avec le dernier morceau de pain beurré, posa le bol dans sa barlen, son giron, si vous préférez. Elle glissa la main dans l'une des fentes de sa jupe pour extraire de sa poche son mouchoir, mais elle s'aperçut qu'elle l'avait oublié. Alors, sur sa bouche, elle passa le dos de sa main. Pour cette bienveillante Sainte-Anne qui avait permis l'alliance entre Aline et Marcel, pour celle qu'on disait habiter en tout lieu, errant incognito le long des grèves avec Marie dans les bras, elle se mit à nouveau à réciter « Santes Anna a Galon ».
Dans les bras de celle qui dort enfin confiante et bête parce qu'elle croit que tu es son maître. Moi je sais bien que tu t'ennuies, comme tu sais que je m'ennuie dans les bras de celui qui dort. Orgueilleux, confiant et bête, tu sais bien qu'on s'aime encore. Alors ces deux qu'on aime pas, qu'on aime un peu, marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble.
Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble.
Ils nous offrent la guérison d'être le salut de nos vies, de briser la mélancolie. À la source de leur amour, mais que font-ils de notre amour ceux qui ont pris la succession? Ils nous offrent que l'on oublie. C'est impossible, on s'aime encore. Alors ces deux qu'on aime pas, qu'on aime un peu, marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble.
Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble.
elles nous font rire et leur colère, et leur rire nous font pleurer, et leur peine nous indiffère, ils sont bien faits pour bien s'aimer. Marions-les, 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 marions-les. Mais nous deux, rentrons chez nous.
Dans cette nouvelle de Michel Labbé, eh bien, puis Saline et Marcel, enfin connaître le bonheur et suivre ce conseil de Juliette Gréco que nous venons d'entendre dans cette chanson de 1965, à la fois drôle, piquante et désenchantée. C'est toujours d'amour dont parle ce poème de Pierre-Nicolas Gandré, Crépuscule au pré Catelot. Pierre-Nicolas Gandré est un poète de l'ombre né en Flandre au milieu des années 50. Auto-édité, peu diffusé, profondément marqué par l'absurde et le sentiment d'une existence humaine irrémédiablement solitaire, sa poésie, fortement influencée par l'œuvre et l'écriture de Rimbaud, n'a jamais vraiment reçu l'accueil du public. Crépuscule au pré Catelot est une rêverie inspirante et naturaliste, un appel lancé à l'autre, en un effort ultime et désenchanté de provoquer le bonheur. Neige d'or, ruissellement de flèches, sur des clos moissonnés, grands clous cuivrés de l'été plantés dans l'herbe sèche. Écho vespéral au clocher des églises, mécanique lointaine, dévorant les blés mûrs dans des ronrons de chats repus. Le jour est bientôt mort, la lumière agonise, juillet. Symphonie de piaillement, turlutaines accrochées aux flancs boisés du val, un salut au ponant, un éclat de cymbales. Lac de prairie véronaise, poésie lumineuse des flaques trouant la foule agglutinée des cimes, tendre tableau descendu des cimaises, et le regard qui erre sur l'horizon distant et qui s'anime. Vaste carré d'ocre et de soie jaune, sentinelle de pailles en prière, runebalers alignés comme des orangs aux funérailles du jour. Une main s'accroche au vide, bonheur sombre et ressuscité, pauvre squelette avide qui saisit les osselets et le souvenir désolé de nos ombres. Brumes indécises qui ourlent au couchant le craie noir des collines. Aux poussières d'étoiles désossées, la poudre d'or s'agglutine et monte lentement vers des cieux encore vierges. Baisers brûlants de la terre aux lèvres rouges et entr'ouvertes du ciel, ballets sordides et noctambules, étreintes enivrées, haleine de putain ou souffle retenu. Il faut entendre l'appel dans le chien loup du crépuscule. Respiration légère, simple brise de mer, charriant de la côte des relents d'iode et de sel, et la mélopée muette et profonde de mille chants de marins moribonds.
J'ai rêvé ton amour et j'ai rêvé ton corps, puis de Bételgeuse en Orion. J'ai rivé nos regards orangés au même cierge céleste. Réveil et bétude, petits matins ébouriffés à la peau nue, tendresse étouffée de la nuit, archipel des solitudes. Naufragés sur nos îles, sous des cieux embarbouillés de suie, nous allons sans destin nos chemins inutiles, jeux solitaires où les mains se dénouent, tout hélas ici s'exclut et se dissout. Carton pâte, vous dis-je, carton pâte, Hollywood de carnaval en plein pays breton, envers pitoyable du décor, détestable illusion. Tes bras se ferment sur l'absence et tu marches sans hâte, abruti de silence. Comment le dire sans te perdre? Viens, viens, accours sans plus attendre, cela suffit. Le temps se bride et s'étrécit. Rejoins ta terre de celtitude, car il est temps d'y croire et d'entreprendre. Soyons humains, une heure, une seconde, peut-être moins encore. Déjà nos corps se vident, demain, nos cœurs livides oublieront le chemin. Viens, viens, soyons vivants, nous serons seuls au monde. Viens, amour, ami, le bonheur n'est qu'à ce prix.
Se sauve que le ciel azuré vire au mauve. Pensez où passer à autre chose, faudrait mieux. Fuir le bonheur de peur, il se sauve. Se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur, il se sauve comme une petite souris dans un coin d'alcôve. Apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble dur. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve, avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Aux cieux, crois aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve. Dis-moi que tu m'aimes encore, si tu l'oses. J'aimerais que tu trouves autre chose. choses un peu mieux. Fuir le bonheur de pas qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, paradis.
Par ordre d'apparition à l'antenne, dans La Plume est à vous, ce dimanche soir, une nouvelle de Michel Labbé, fine au bol de faïence, et ce second texte de Pierre-Nicolas Gandré, Crépuscule au pré Catelot. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 21h, comme d'habitude dans La Plume est à vous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous transmettre vos textes, que vous soyez auteur confirmé ou occasionnel, à l'adresse suivante plume@bretagne5.fr en y joignant vos coordonnées ainsi qu'une courte biographie. Merci bien sûr à l'incomparable Frédéric Guyon aux manettes pour la mise en onde de cette émission. Passez, chères auditrices, chers auditeurs, une très très belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'avoir encore quelques jours de répit. À dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.